Chapitre 9. Bonne fête, Arthur, bonne fête, Arthur, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Arthur. Dans la demeure de Freddy et Madeleine, l'ambiance était à la bonne humeur. Leur premier enfant avait 1 an. Désirant célébrer cet anniversaire avec ses proches et certains amis, la jeune mère avait convié Jean-Julien, Émile et Rosario à venir partager un souper copieux le soir du 18 août. À contre-cœur, son époux avait accepté qu'elle invite aussi son frère Jacquelin. Ce dernier avait décliné l'offre avec grandiloquence, au plus grand soulagement de tous, sauf Palmyre et Rosario. « Même si je doute que ces cérémonies superficielles soient bien chrétiennes, j'aurais aimé souper avec vous. Toutefois, je dois remettre à une autre fois ma visite chez vous, puisque des tâches importantes m'occuperont. » Freddy s'était mis à danser autour de leur lit quand sa femme lui avait annoncé que Jacqueline ne pourrait être des leurs. « Arrête ça !» l'avait disputé Madeleine d'un air fâché. « C'est mon frère, que tu l'aimes ou pas, et je vais continuer à l'inviter chaque fois que je le désire, Freddy Poirier. » À leur grand plaisir, Arthur avait fait ses premiers pas, sans aide, à la fin de l'après-midi, alors que Freddy entrait dans la maison accompagné par Émile. « Regarde, mon garçon !» avait annoncé Madeleine en le déposant sur le sol. « C'est ton papa !» Puis, elle avait tenu les petites mains du bébé dans les siennes, et comme Freddy s'accroupissait, Madeleine avait senti l'enfant lâcher le bout de ses doigts pour s'avancer maladroitement vers son père. « C'est ça, mon gars, c'est ça! Ah ben, c'est crème, il marche! Mon fils marche! Avez-vous vu ça? » Le visage rouge d'excitation, Freddy avait soulevé Arthur pour le lancer vers le plafond. L'enfant rieur avait gigoté dans les bras de son père jusqu'à ce que ce dernier le redépose sur le plancher de bois. Pendant plusieurs minutes, ses parents s'étaient extasiés et l'avaient amené à marcher de plus en plus loin dans le salon, sous les applaudissements de Palmyre, soudainement nostalgique. L'aïeule se souvenait de la joie qu'elle avait ressentie, elle aussi, des décennies auparavant. De plus en plus souvent, la vieille femme songeait au temps qui s'écoulait. « Il leur en restait bien peu », avait-elle murmuré à Rosario, un soir qu'ils partageaient un doux moment. Devant les prouesses d'Arthur, sa mère avait éprouvé un sentiment de profonde tristesse en pensant à Simone. « J'aimerais tant lui raconter la vie d'Arthur. » Madeleine réalisait que malgré l'année qui s'était écoulée, sa sœur ne lui avait toujours pas pardonné. Elle comprenait que seulement dans ses rêves les plus fous, il lui serait possible d'annoncer la bonne nouvelle à sa jumelle. Cette évidence l'avait tant chagrinée que, sans préavis, elle avait cessé de participer au jeu avec son mari et son fils. « Bon, je vais continuer le souper. » Si Freddy n'avait pas remarqué le ton peiné de son épouse, Palmyre, elle, l'avait observé. La vieille femme, assise dans la chaise berçante près de la porte entrouverte qui laissait entrer un peu de vent, avait agrippé la main de sa petite fille lorsque celle-ci était passée tout près. Sans parler, les deux femmes avaient échangé un regard qui disait tout. Madeleine avait eu envie de crier à l'aïeule. « Vous m'aviez promis qu'elle me pardonnerait un jour, que Simone voudrait connaître mon fils et ce bébé à venir. Vous m'aviez promis, grand-mère. » Mais sachant que personne ne pouvait prévoir la vie, Madeleine avait eu son amertume. Quand Rosario était arrivé, le vieil ami de Palmyre avait à son tour assisté aux exploits d'Arthur, sous les encouragements de Freddy qui n'avait pas lésiné dans la bagosse pour célébrer cet événement. Émile, qui avait connu son père ivre trop souvent, se contenta d'un petit verre. Ce fut enfin le tour de Jean-Julien, le dernier à mettre le pied dans la maison bleue. Même si la chaleur coupait l'appétit de Madeleine, déjà embarrassée par son gros ventre, les pêcheurs, eux, firent la fête à ses croquettes de morue. Devant le gros gâteau à la vanille recouvert de crème et de framboises, les hommes salivèrent. « Je te dis, ma femme, que tu fais bien à manger », clama Freddy en frottant son ventre encore bien plat. « J'espère qu'il va en rester pour amener dans la barge demain, c'est le beau-frère qui va être jaloux. » Peu conscient de l'émotivité qui minait encore Madeleine quand venait le temps de discuter de la famille de sa jumelle, Freddy sourit avec plaisir aux autres hommes assis à la table. Puis, il leva un doigt en guise d'avertissement. « Ça fait que mangez-en pas trop, vous autres !» se moqua-t-il alors que Palmyre rigolait, sa bouche édentée cachée derrière sa main tremblotante. « C'est bien de valeur, mon gars !» répliqua Jean-Julien, « mais moi, je suis célibataire et des gâteaux de même, j'ai pas la chance d'en manger souvent. Si ça te dérange pas, ma belle Maddie, j'en prendrai encore. » Devant le front plissé et les sourcils froncés de Freddy, le reste de la table se mit à rire. Rosario, assis près de son ami de toujours, savoura ses moments de détente en belle compagnie. Depuis la mort de son dernier frère au printemps précédent, il se sentait de plus en plus esselé. Parfois, il passait de longues journées dans les champs derrière la maison qu'il habitait avec sa fille et son gendre, au bout du rang bisaillon, aéré sans but. Il arrachait des mauvaises herbes, lançait des mottes de terre, vérifiait un bout de clôture, bien souvent en ayant l'impression de ne plus servir à rien. Quand il allait sur la grave, il savait que ses gestes moins assurés ralentissaient l'ouvrage. Sa fille avait beau le rassurer, lui dire qu'il était encore bien utile, Rosario priait parfois le Seigneur de ne pas oublier de le rappeler à lui. « Quoi ? » demanda-t-il en constatant que Palmyre attendait la réponse à une question qu'il n'avait pas entendue. « Es-tu sourd, mon ami ?» se moqua gentiment la vieille aux cheveux blancs. « J'ai dit, veux-tu venir prendre ton thé sur le balcon avec moi ? On va laisser les jeunes ensemble. » Rosario, qui avait les épaules toujours aussi larges que quand il avait 20 ans, souleva sa lourde silhouette en acceptant l'offre de bonne grâce. Jean-Julien lança une boutade en s'informant à quel endroit il devait s'installer, étant le seul adulte ni jeune ni très vieux. Mais il décida de rester auprès de la petite famille et d'Émile, qui racontait des histoires sur les pêcheurs et les terriens, qui pourraient peut-être servir de nouvelles dans son prochain journal. En entrant dans le magasin général, le lendemain après le souper, Simone promena son regard noisette pour s'assurer que sa jumelle n'y était pas. En été, Gaston Taillefer ajustait les heures d'ouverture de son commerce pour accommoder les villageois qui travaillaient tard sur la grave. Comme si elle n'attendait que son arrivée, la jeune Rosalie s'empressa de se diriger vers elle. Curieuse, elle ne put s'empêcher de lancer d'un ton désinvolte « La fête d'hier s'est bien déroulée ?»« La fête ?» Sachant que son père la réprimanderait s'il l'entendait, Rosalie pencha son corps au-dessus du large comptoir pour se rapprocher de Simone. « La fête du petit Arthur, ta sœur est venue acheter de la vanille samedi pour... Je sais pas de quoi tu parles. Bon, excuse-moi Rosalie, mais il faut que j'aille chercher une pince de l'autre côté. » Sans plus un mot, Simone replaça son sac à main en cuir noir usé sur son avant-bras et elle s'éloigna de la jeune vendeuse offusquée. Rosalie éprouvait une réelle fascination pour les jumelles Gérard et le malheur qui les avait frappées, même si elle les connaissait peu. En fait, chaque fois que Freddy Poirier mettait les pieds dans le magasin, la jeune femme de 18 ans sentait son corps frétiller de bonheur. Elle avait beau tout faire pour éviter que ses frères ne remarquent son attirance envers l'homme marié, Gérola et William la surveillaient étroitement. La brune plantureuse savait qu'un seul mot de leur part suffirait pour que son père, Gaston, l'installe dans le bureau fermé à l'arrière du magasin. Il l'obligerait à réviser les registres, en gardant un œil sur elle constamment. Le marchand ne lésinait pas avec la vertu de sa fille unique. « Franchement, » grogna Rosalie en regardant la silhouette courte de Simone traversée dans l'autre partie du magasin. « Il y a du monde qui manque de savoir-vivre au village. Je posais juste une question, moi. » Piteuse, la jeune femme retourna derrière son comptoir pour vérifier les échantillons de tissu qu'un marchand ambulant lui avait laissés la semaine précédente. Il lui faudrait donc demander à Freddy comment s'était déroulée la fête d'anniversaire de son enfant. Un léger sourire sur les lèvres, Rosalie se prit à imaginer que cet homme était le sien et qu'Arthur n'existait pas. Elle savait que ses charmes ne laissaient pas le jeune pêcheur indifférent. Quand il s'approchait d'elle, la marchande faisait tout en son pouvoir pour que son léger parfum floral envoûte le beau Freddy. Même si un avenir entre eux était impossible, c'était plus fort qu'elle. Son cœur trépignait lorsqu'elle posait le regard sur le visage poupin du jeune poirier. Elle aimait le servir quand il s'appuyait nonchalamment contre le comptoir pour lui demander un objet ou un morceau de vêtement. Alors que Rosalie rêvassait, assise sur un tabouret, Simone rageait devant les étagères d'outils divers. « Impertinente !» cracha-t-elle, comme si elle ignorait la situation entre Mali et moi. « J'ai presque le goût d'avertir son père de son comportement à la petite maudite. » S'en voulant de ses paroles peu chrétiennes, Simone ne put toutefois s'empêcher de réfléchir à ce que lui avait dit Rosalie. Le regard perdu dans le vague, elle pensa avec une grande tristesse à son neveu Arthur. « 1 an. » Il a 1 an et je l'ai pris juste une fois. C'est certain que je veux plus rien avoir à faire avec ma sœur, mais son petit gars rien fait dans le fond. » Or, en baissant les paupières pour reprendre sa contenance, Simone regarda son ventre rond qui n'aurait plus jamais la chance de porter un enfant. Alors son état d'esprit changea et elle conclut sa pensée. Il n'a rien fait, Arthur, à part vivre heureux à la place de mon gars. C'est donc avec une énergie colérique qu'elle fouilla dans les bacs d'outils pour trouver une pince coupante comme Tom le lui avait demandé. Des souvenirs de l'anniversaire d'un an des lois affluèrent à son esprit. Le bébé qui ne marchait pas encore, mais qui se promenait partout à quatre pattes dans la petite maison. Les invités qui avaient profité de l'occasion pour festoyer après une longue saison de pêche. Madeleine avait même confectionné le gâteau de son filleul cette journée-là. Simone la voyait encore arriver avec son dessert, heureuse de contribuer à la fête des lois. Un beau gros gâteau pour un beau gros bébé, avait lancé sa sœur en entrant dans la maison. Se secouant pour éviter d'éclater en sanglots, Simone compara les outils qu'elle tenait à la main. Le magasin fermerait bientôt. Gaston attendait juste qu'elle et un autre client sortent avec leurs achats. Elle comprenait à présent pourquoi Freddy n'avait pu accompagner son époux la veille au soir, lorsque ce dernier était allé installer les filets pour capturer les harengs. Cléophas Langevin avait évidemment accepté d'aider Tom à la place de son beau-frère. Tom n'avait pas jugé bon de questionner Freddy sur la raison de son absence. Simone tenta d'oublier la fête d'Arthur pour se concentrer sur sa recherche. Une pince coupante, marmonna la femme de mauvaise foi. « Je sais pas, moi, ce que Tom veut exactement, je suis pas une experte. » Simone voulait se dépêcher de terminer sa course puisque Philomène était restée à la maison en compagnie de Béatrice le temps qu'elle descende au magasin. Horace était retourné sur la grave pour donner un coup de main à Tom, revenu avec une grosse pêche. Puisqu'elle avait presque 9 ans, la fillette avait assuré ses parents depuis le début de l'été qu'elle était assez grande pour surveiller la maison et sa sœur. Parfois, Gustave joignait sa voix à celle de Philomène en disant à Simone de ne pas s'inquiéter, qu'il s'occupait des filles. Mais la mère hésitait quand même à laisser les enfants longtemps seuls. Depuis la noyade des lois, Simone avait l'impression qu'un malheur leur pendait toujours au bout du nez. Elle avait tenté de valider son ressenti auprès de Tom, mais ce dernier lui avait répondu d'un ton bourru « On va pas les empêcher de vivre parce qu'une personne inconsciente a volé la vie de notre fils. » Chaque fois qu'il était question de sa jumelle, Simone sentait la hargne et la rage qui envahissaient encore son mari. Dans son cas, même si elle n'avait pas pardonné à Madeleine, il n'en demeurait pas moins que son absence créait un vide impossible à combler, même lorsque Clémence venait passer quelques jours à Lens-à-la-Joie. Plantée devant les étagères débordantes, Simone s'aperçut que sa colère envers sa sœur se transformait peu à peu en une profonde lassitude. Par moments, elle se disait même que la présence d'Arthur dans sa vie réussirait peut-être à lui redonner un sens. Elle en était là, dans ses réflexions, lorsqu'un coup brusque sur son épaule la fit sursauter. « Aïe aïe! Ah, excuse-moi la jumelle, t'es laquelle des deux, toi? Parce qu'à cette heure que vous avez encore les cheveux pareils, je suis plus capable de faire la différence. Moi, j'aimais ça quand il y en avait une avec une grande tresse. » Simone précisa son nom en levant les yeux au plafond de dépit. Pendant qu'elle ruminait sur le passé, Mathias Gagné était arrivé à ses côtés, avec son pantalon trop large qu'il passait son temps à remonter sur son ventre. La chemise brune tachée de sueur aux aisselles justifia son recul, et l'homme niait ricana en promenant un cure-dent entre ses dents gâtées. « Veux-tu que je t'aide? » Le premier réflexe de Simone fut de refuser. Mais tout en mettant un peu plus de distance entre eux, elle songea que cela faisait presque 30 minutes qu'elle avait quitté la maison et qu'il faudrait qu'elle se dépêche d'y retourner. Alors, passant outre son agacement face à Mathias, elle hocha la tête. « Tu serais fin, Tom a besoin d'une pince coupante de 12 pouces. »« Une pince, hein? Pourquoi faire? » « Je sais pas, moi, Mathias, une pince, c'est tout ce qu'il m'a dit, puis j'y ai pas fait passer un questionnaire. » Le regard presque translucide du trentenaire se posa sur la poitrine lourde de Simone et s'y attarda un moment. Mal à l'aise, même si elle se doutait que l'homme n'était pas méchant, la femme croisa les bras sur le devant de sa robe écrue, ce qui sembla sortir Mathias de sa fixation puisqu'il leva les yeux pour sourire. « Bon, pose-toi la femme, je vais regarder à ta place. » Simone réprima une réplique bien sentie, peu désireuse de se lancer dans une discussion avec le balourd. Reculant dans la grande salle au plafond haut, elle alla s'appuyer contre un baril de bois et attendit impatiemment. Pendant que Mathias cherchait en bourrassant, une envie irrépressible d'apercevoir son neveu Arthur monta en elle. Simone ferma les yeux et se demanda si elle ne pourrait pas emprunter le rang-le-page de l'autre côté du village pour remonter chez elle. Elle aurait ainsi l'occasion de passer devant la maison de sa sœur. Peut-être que Maddy sera sur le balcon ou dans le salon avec le petit. J'ai bien le droit de me promener au village. Ça va prendre 10 minutes de plus, mais filou ma châle pour que je lui fasse confiance. Il commence à faire sombre, je me ferai discrète en longeant les clôtures. Pense à Simone, dont le cœur vibrait à l'idée de voir son neveu de 1 an. « Trouvez !» cria Mathias en la faisant sursauter. « Tiens, tu diras à ton mari que si j'avais pas été là, il aurait jamais eu de pince. Exagère pas. » ne put s'empêcher de répondre Simone. « J'aurais fini par la dénicher. » Elle prit l'outil de métal que lui tendait l'homme et s'empressa de retourner de l'autre côté pour que Girola puisse noter l'achat dans son registre. Puis elle sortit du magasin sans même accorder un regard à la fille du marchand. Elle mit le pied sur le balcon du commerce en poussant un soupir de soulagement. Entre Rosalie et Mathias, c'était pas une partie de plaisir, cette virée-là. Habituée à se diriger vers le garage pour monter ensuite la côte du Sureau, Simone hésita un court moment en regardant la mer. Le soleil qui se couchait derrière la montagne laissait tomber ses rayons sur la baie. Des pêcheurs qui profitaient des dernières journées de la saison naviguaient en direction du quai, malgré le fait qu'il soit près de 8 heures. Pour éviter de changer d'idée, la femme glissa la pince dans son sac à main en la laissant dépasser, et elle se dirigea rapidement vers l'autre côté du village. La tentation était trop forte pour qu'elle y résiste. Elle baissa la tête pour éviter que les villageois se questionnent sur sa présence sur le rang-le-page. Tout le monde connaissait les jumelles Gérard, unies avant le 15 juin 1934. Après la tragédie, même pour les hommes qui venaient d'ailleurs, leur triste histoire était bien connue. Simone s'engagea dans le sentier qui traversait un champ de patates pour éviter ainsi un long détour. « Je suis certaine que ça dérange personne que je passe ici », souffla-t-elle en tentant d'éviter les trous dans le sol malgré la pénombre qui s'installait. Quand Simone mit enfin le pied sur le rang Soriol, elle était en sueur et regrettait sa décision. « J'aurais dû attendre de le voir de loin sur la grave comme d'habitude », songea la femme. « Mais il est toujours caché en arrière des vigneaux quand Maddy l'amène. Là, peut-être qu'elle va l'avoir dans les bras. » Même si son raisonnement était irrationnel, Simone se hâta dans la direction de la Maison Bleue avant de changer d'idée. C'est le cœur battant à tout rompre qu'elle observa la demeure éclairée par quelques lanternes, en priant pour qu'aucun voisin ne se trouve dans les parages. Longeant la clôture sur le bord du chemin, Simone essuya ses mains moites sur sa robe, laissant une trace de terre sous la poche de droite. Mais elle n'en avait cure, trop occupée à s'assurer de ne pas être vue. Quand elle fut arrivée devant l'allée menant chez Madeleine, elle ne put résister à l'envie de s'y engager. Tête baissée comme une voleuse, Simone marchait à petits pas lorsqu'une voix l'apostropha. « Simone, c'est toi ?» Plissant le visage avec déplaisir, la jeune femme respira par à-coups, complètement désemparée. Assise sur le balcon avec son amie Rosario, sa grand-mère tentait de se relever pour mieux voir. Simone se dit qu'elle avait encore le choix de partir sans dire un mot, en espérant que Palmyre croie s'être trompée, puisque sa vue déclinait, ou de s'avancer pour la saluer. Malgré toute son envie de fuir, Simone savait qu'elle ne pouvait manquer de respect à la vieille dame. Elle s'avança donc vers le couple d'aînés, la mine basse. « Bonsoir, grand-mère, » chuchota-t-elle. « Rosario, bonsoir. »« Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» s'informa Palmyre sur un ton alarmé. À son grand désarroi, les yeux de Simone se remplirent de larmes, alors qu'elle hochait la tête de gauche à droite sans savoir quoi répondre. Malgré sa faiblesse, Palmyre se leva péniblement de sa chaise et elle trotta en s'appuyant sur le bras solide de Rosario. L'octogénaire avait connu cette jumelle combattante, impulsive et dynamique. Depuis la mort de son garçon, toute cette énergie semblait éteinte en elle. « Simone ?» répéta-t-elle. « Je vous... voulais juste... Oh, grand-mère !» La femme laissa sa sacoche tomber sur le sol et plongea son visage dans ses mains. Palmyre, de son côté, jeta un regard dérouté à son amie. Elle voulait descendre sur le sol près de sa petite fille. Comprenant son message, le vieux prit solidement l'aïeule par les coudes et la dirigea lentement vers les marches. Enfin, alors qu'à l'intérieur des rires éclataient, Palmyre releva le menton tremblant de Simone. « Tu voulais quoi ? »
Voir Arthur.
Arthur?
Juste une fois en cachette. Je pensais regarder par la fenêtre pour l'apercevoir, mais je vais m'en aller, c'était une erreur.
Palmyre espérait tant qu'une réconciliation soit possible entre ses petites filles qu'elle réprima un sourire tendre, malgré les pleurs de Simone. Ignorant comment agir, elle attendit que Rosario prenne la parole, mais l'homme ne voulait pas se mêler de ce drame familial. N'eût été l'aide qu'il apportait à son ami pour l'amener à se déplacer, le vieux pêcheur serait retourné chez lui séance tenante. Alors il recula de quelques pas pour laisser de l'intimité aux deux femmes. Palmyre resserra sa veste bleue aux manches blanches sur son corps courbé et tapota le balcon pour que sa petite fille s'y assoie à ses côtés.
« Je vais m'en aller, grand-mère, c'est une erreur, » répéta Simone. « Je veux pas que Malie me trouve ici. »
La femme se pencha pour ramasser son sac et elle serra Palmyre dans ses bras avant de courir dans l'allée. Elle sortit la langue pour lécher les larmes coulant sur sa bouche et renifla plusieurs fois tout en s'éloignant en vitesse.
« Je m'excuse, Éloi, »
lança-t-elle les yeux levés vers le ciel.
« Je te promets que je t'ai pas oublié, mon petit gars.